La nature, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour nous.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. La chaussure ne fut pas toujours une enveloppe souple destinée à favoriser le running. Ces objets d'aujourd'hui, au design et aux couleurs acidulées, recueillant nos pieds délicats du XXIe siècle sur une mousse moelleuse en polymère, donnant la sensation d'échapper à la compression comme à la pesanteur. Une exposition rassemble des exemples nombreux et soigneusement choisis de ces objets dont nous enveloppâmes nos pieds entre le Moyen-Âge et nos jours. Apparaît ainsi ce qui devrait être fonctionnel. Au fond, une chaussure pour être bien et nous protéger des agressions extérieures. Eh bien, ceci est en fait un précipité de particularisme, de projection psychique qui en font de période en période un objet extraordinairement symptomatique. La chaussure, la mule brodée, la socque, la galoche, le godillot, le brodequin, le sabot, la bottine, l'escarpin, la sandale, le mocassin, le chausson, la cuissarde, la chopine, bref, le soulier. Le soulier, qu'il soit à boucle ou à talon, à clou ou à crampon, qu'il soit pour la danse ou pour la guerre, le soulier long et épaté pour le clown, haut et lacé pour le claque, le soulier donc est toujours le reflet de notre imaginaire. Chacun est prêt à souffrir pour le porter ou à faire souffrir pour désirer plus. L'exposition des arts décoratifs intitulée « Marches et démarches, une histoire de la chaussure » nous emmène dans les tortures volontaires que ces objets nous ont parfois infligées. Pour en parler, je reçois Denis Brunat. Comment allez-vous, Denis ?
Très bien, merci beaucoup.
Vous êtes historien de l'art, spécialiste du Moyen-Âge, des représentations du corps, des modes et des usages vestimentaires. Vous êtes professeur à l'École du Louvre, conservateur en chef au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Vous préparez de nouvelles expositions sur des sujets aussi extravagants qui font partie de la construction de nos apparences. Je pense en particulier à ce que vous êtes en train de préparer. C'est peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, je ne sais pas, cheveux et poils.
Oui, cheveux et poils, c'est dans 3 ans, Musée des Arts Décoratifs. En effet, je m'intéresse aux relations entre le vêtement, les apparences et le corps. Et l'idée de préparer en tout cas une exposition ou une exposition de mode où le vêtement ne serait pas présenté, mais de montrer que le fait de se coiffer, de se raser, de se colorer les cheveux, de s'épiler, fait également partie des constructions des apparences.
Donc ça va être un autre chapitre fascinant d'une série finalement, hein, parce que ça fait quasiment 3 expositions sur cette construction des apparences. La mécanique des dessous, c'était la première peut-être ?
La mécanique des dessous était la première. C'était s'interroger sur tous les sous-vêtements qui façonnaient le corps pour avoir une belle taille, une gorge haute, des hanches larges à travers le temps. Ensuite, il y a eu tenue correcte exigée en 2016. C'était s'interroger sur le vêtement et la morale. Surtout à une époque où on dit que les interdits vestimentaire n'existe plus, ce qui est faux. Donc l'exposition a tenté en tout cas de répondre à ça. La chaussure aujourd'hui, et puis donc cheveux et poils pour 2023.
Et en fait, c'est le goût des métamorphoses. Donc vous êtes venu avec un complice pour parler de cette exposition, Éric Binquet. Bonjour Éric, comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Vous êtes designer, scénographe, vous préparez d'ailleurs, me semble-t-il, du mobilier pour le parc régional d'Ardèche, c'est ça ?
C'est ça.
Dans le cadre ?
Dans le cadre du projet Le Partage des Eaux, qui est en fait une invitation du parc qui invitait des artistes et des paysagistes.
C'est David Moinard le commissaire ?
C'est David Moinard le commissaire.
Il est super, c'est super. Le partage des eaux, c'est une idée extraordinaire. C'est comment est-ce que l'eau ruisselle d'un côté ou de l'autre, vers l'Atlantique ou vers la Méditerranée, selon l'endroit où on se trouve.
C'est ça.
C'est assez mystérieux et c'est très beau. Et donc, il y a ce parc où vous allez travailler. Donc, en attendant, ouais. Vous avez travaillé sur cette exposition. Mettre en scène des chaussures, j'ai l'impression d'ouvrir un placard. On peut faire mieux?
C'est tout l'enjeu, effectivement. Oui, la question, c'est... Ben, on peut faire mieux au sens où là, on n'est pas là juste pour montrer des chaussures. On est là pour parler de la démarche. Et la chaussure est un outil pour qui tient un discours en fait, composé par notre ami Denis Brunat évidemment.
Alors moi je suis venu avec une complice, Elsa Dupuis, qui va avoir la gentillesse de lire les textes. Elsa donc fait partie d'une troupe qui s'appelle Soleil Glacé et prépare en ce moment à Limoges, je pense, une nouvelle pièce bientôt.
Oui, la création vient d'avoir lieu au CDN de Limoges, mais nous serons en tournée jusqu'à fin mars. On fait quelques dates à l'Échangeur à Bagnolet fin mars.
Super, donc on ira voir. Allons à Limoges, allons en Ardèche, allons au Musée des Arts Décoratifs où cette exposition se tient jusqu'au 22 mars. S'il vous plaît, Denis Brunat, quand même, faire une exposition sur les chaussures, mais vous ne l'avez pas faite uniquement... Moi, je pensais qu'on allait voir l'histoire du confort. Et en fait, ce n'est pas du tout l'histoire du confort, c'est plutôt l'histoire de l'inconfort qu'on découvre.
En quelque sorte, parce que l'idée de l'exposition est venue, parce que nous conservons dans les collections du Musée d'Art Décoratif un escarpin ayant appartenu à Marie-Antoinette. On sait vraisemblablement qu'elle l'a porté en 1792. La reine avait 37 ans.
Mais je l'ai vu, hein,
il est minuscule, oui.
D'autant plus que... Je ne peux pas croire qu'elle soit rentrée dedans.
Mais c'est toujours très difficile, mais toujours est-il, les dames de l'aristocratie, et la reine en particulier, ne marchaient pas. Elles se bandaient les pieds. C'est en effet en travaillant précisément sur un manuel de podologie de 1802, on apprend justement que pour éviter les corps aux pieds, ce qui est tout à fait discutable, on conseillait aux dames et aux hommes, et surtout aux dames notamment, de se bander les pieds, donc dans l'aristocratie française et puis anglaise, notamment pour rendre les pieds les plus minces possibles.
C'est pas une recommandation que vous faites aux auditeurs.
Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Personnellement, je ne le ferai pas, surtout quand on voit la taille, en effet, des petits pieds, plutôt des petits souliers que les personnes de l'aristocratie au XVIIIe siècle et puis de la grande bourgeoisie et encore, donc au XIXe et encore au début du XXe siècle pouvait avoir. Mais voilà, en tout cas, l'idée de l'exposition est venue de là, c'est se poser une question pour laquelle je n'avais pas la réponse, et comment une femme de 37 ans, en l'occurrence donc Marie-Antoinette, a pu glisser un pied dans un soulier aussi petit.
Curieusement, le pied donc semble être non seulement moi je pensais que le pied serait fantasmatique forcément dans le monde féminin, on aperçoit dans l'exposition qu'il l'est aussi dans le monde masculin, et que cette idée d'en faire un bijou, un ornement, une particularité existe aussi dans le monde masculin.
Oui, ça a été le cas pour les femmes et pour les hommes, c'est-à-dire que les hommes ont aussi répondu à ce culte du petit pied, et d'ailleurs on présente notamment des souliers des hommes de la grande bourgeoisie du 19e siècle, on a notamment une paire d'escarpins qui a appartenu à Alfred de Musset vers 1830.
Très féminin, hein, ils sont très allongés, très échancrés.
Très mince, mais vous savez, par exemple, pour préparer cette exposition, j'ai travaillé avec plusieurs podologues, et dans une podologue qui a travaillé rue du Faubourg Saint-Honoré, qui a pris sa retraite maintenant, m'avait dit qu'au tout début, lorsqu'elle avait commencé sa carrière dans les années 1970, elle était très surprise de voir que sa clientèle la plus âgée, donc des personnes qui avaient 70-80 ans dans les années 70, avaient les pieds très minces. Et quand elle les interrogeait notamment sur ce cas de figure, les clients lui répondaient que dans leur enfance, leurs parents leur mettaient des chaussures avec une pointure, voire deux pointures en dessous de la taille normale de leur pied, toujours pour avoir un petit pied, parce que nous sommes dans une tradition occidentale dont on trouve des traces de moins ou depuis le XIIIe siècle. Il est de bon ton, je dirais, d'avoir un pied fin, comme d'avoir des mains très fines, une peau très claire, une taille mince. En quelque sorte, le corps aristocratique, le corps élégant a déjà été dessiné au cours du XIIIe siècle.
Au cours du XIIIe siècle, on avait déjà donc des chaussures qui s'appelaient comment, des poulaines, hein, était-ce cela ?
Il y a eu la mode des poulaines, en effet, qu'on appelait des pigasses au XIIe et XIIIe siècle, et ensuite les poulaines, telles qu'on les connaît, c'est-à-dire qui sont aussi comme les pigasses, donc des chaussures à pointe. Il y a eu une mode dans les années 1370 qui s'est arrêtée vers 1400 et qui est réapparue vers 1450.
Vous pouvez me dire la différence entre une pigasse et une poulaine ?
C'est pratiquement les mêmes choses. La pigasse est une chaussure à pointe, la poulaine aussi.
Une pointe qui se recourbe, une pointe qui remonte.
C'est très rare. Non, ça, je pense que les pointes qui se recourbent, je pense que ça a été plutôt un fantasme du 19e siècle. Je dirais les pointes, peuvent être notamment très effilées, elles peuvent remonter un petit peu, se recourber, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Et le mot poulaine, c'est juste une appellation différente parce que la Pologne, d'où le nom, était extrêmement à la mode au 14e siècle, était considérée comme un pays très exotique. Donc, dès qu'il y avait une mode un petit peu différente, on attribuait souvent cette mode à la polonaise, voilà.
Ah, je ne doutais pas d'où venait la poulaine. Et alors, dans une des premières vitrines que l'on voit, c'est une vitrine d'enfants. Et ça m'a beaucoup frappé. Vous allez peut-être me dire pourquoi et comment vous l'avez faite, cette vitrine d'enfants. Mais ce qui m'a étonné, c'est que, au fond, je me suis dit que les enfants n'avaient pas vraiment besoin de chaussures.
Jusqu'à ce qu'ils marchent, en tout cas, c'est sûr. Après,
pourtant, ils en ont avant qu'ils marchent.
Ils en ont avant qu'ils marchent, oui.
C'est une sorte de vue de l'esprit, on leur fait des petits hommes.
C'est ça. Il y a peut-être des parents pour qui avoir un enfant, c'est avoir une petite poupée qu'il faut habiller et déguiser. Non, ce qui est intéressant, c'est dans cette vitrine, il y a un coffret qui a été offert par quelqu'un de la couronne en Angleterre, non, c'est ça, et on voit que c'est un coffret très très ouvragé avec aussi des chaussettes, enfin tout un petit attirail comme ça. C'est un ensemble qui est assez beau. Il y a ces pièces-là, et à l'inverse, il y a aussi des chaussures des Indiens d'Amérique qui ont, alors pour le coup, on voit qu'ils ont été portées, qu'ils sont faites dans un bout de cuir avec deux boutons et qui sont très émouvantes parce qu'elles sont, on voit qu'elles ont vraiment été portées par un gamin qui a couru, on ne sait pas où, on ne sait pas quand. Enfin, et donc il y a ces contrastes-là qui sont étonnants. On voit que ça a traversé les cultures et le temps.
Donc culture, mais aussi habitude culturelle, au fond, de donner des chaussures à des enfants qui n'en ont pas besoin. Il y a une phrase de l'Émile là-dessus, dans Jean-Jacques Rousseau.
Oui, mais cela est arrivé très tard, arrivé au XVIIIe siècle. En revanche, dès le XVIe siècle, l'aristocratie veut chausser ses enfants pour marquer une différence avec les enfants du peuple qui, eux, ne portaient pas de chaussures. L'idée de cette vitrine, c'est justement de montrer qu'on avait à peu près, je dirais, des textes dès les années 1450 jusqu'à notre époque, de la part en tout cas des parents et des éducateurs, faut-il chausser ou ne pas chausser les enfants pour les premiers pas. Et il y a toute une sorte de discours en disant, oui, il faut chausser parce qu'il faut les aider dans la marche. Non, il ne faut pas chausser parce qu'il faut que la plante des pieds et puis également les muscles des jambes se forment. Donc l'idée était précisément de montrer un petit peu l'évolution de la chaussure. Mais la chaussure pour enfants telle que nous la connaissons apparaît très tard, parce que c'est-à-dire vers 1920. Avant 1920, il n'y a pas de différence à part la taille, bien sûr, entre les chaussures d'adultes et les chaussures d'enfants sont exactement les mêmes types. Et vers 1920, je dirais, il y a à la fois les premières garde-robes pour les enfants, il y a aussi les premières chaussures, et la première chaussure en quelque sorte qui est faite pour la marche, c'est 1949, c'est la Baby Bot qui notamment se vante d'avoir un talon bloc, et c'est ce renfort au niveau du talon qui va donc maintenir la cheville, également le talon à l'arrière, pour faciliter la marche. Et des générations, je dirais, d'Européens et de Français surtout, ont eu ce type de modèle qui d'autant plus a été très copié par d'autres remarque.
Alors Éric Binquet, vous avez choisi de mettre à l'entrée de l'exposition deux tableaux. Alors probablement en discussion avec le commissaire, deux tableaux. Pourquoi ces deux tableaux? Qu'est-ce qu'ils disent?
Alors oui, enfin, j'ai pas vraiment choisi. Pour être très honnête, c'est le commissaire qui a choisi les tableaux.
Il est tyrannique, vous voulez dire?
Absolument. Mais voilà. Alors bon, après, du coup, lui amène les tableaux. Moi, je effectivement, on discute après de où on les met dans l'espace.
Et pourquoi? Donc dites-nous pourquoi.
Justement pour... parce que cette exposition n'est pas un placard à chaussures. C'est les chaussures, comme les tableaux, comme les autres objets ou documents iconographiques qu'on a au cours de l'exposition, viennent expliquer justement que la dimension sociétale, la dimension comportementale de la chaussure, on n'est pas juste dans une expo de mode.
Alors il y a un tableau qui n'est pas là, mais quand on pense à une exposition sur la chaussure, on y pense forcément, et vous nous direz pourquoi c'est absurde ou pourquoi c'est hors sujet, etc. C'est le fameux tableau de Van Gogh, les chaussures de paysans, dont Heidegger en 35 avait fait en 1935 une description qui a été extrêmement importante dans l'histoire de la philosophie, même si Heidegger depuis a été largement contesté.
D'après la toile de Van Gogh, nous ne pouvons même pas établir où se trouvent ces souliers. Autour de cette paire de souliers de paysans, il n'y a rigoureusement rien où ils puissent prendre place. Rien qu'un espace vague. Même pas une motte de terre provenant du champ ou du sentier, ce qui pourrait au moins indiquer leur usage. Une paire de souliers de paysans et rien de plus. Et pourtant... dans l'obscure intimité du creux de la chaussure est inscrite la fatigue des pas du labeur. Dans la rude et solide pesanteur du soulier est affermie la lente et opiniâtre foulée à travers champs, le long des sillons toujours semblables s'étendant au loin sous la bise. Le cuir est marqué par la terre grasse et humide. Par-dessous les semelles s'étend la solitude du chemin de campagne qui se perd dans le soir. À travers ses chaussures passe l'appel silencieux de la terre, son don tacite du grain mûrissant, son secret refus d'elle-même dans l'aride jachère du champ hivernal. À travers ce produit repasse la muette inquiétude pour la sûreté du pain, la joie silencieuse de survivre à nouveau aux besoins, l'angoisse de la naissance imminente, le frémissement sous la mort qui menace. Ce produit appartient à la terre, et il est à l'abri dans le monde de la paysanne. Au sein de cette appartenance protégée, le produit repose en lui-même. Nous n'avons rien fait que nous mettre en présence du tableau de Van Gogh. C'est lui qui a parlé. Dans la proximité de l'œuvre, nous avons soudainement été ailleurs que là où nous avons coutume d'être. L'œuvre d'art nous a fait savoir ce qu'est en vérité la paire de souliers.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière et nous sommes en train de commenter l'exposition du Musée des Arts Décoratifs « Marche et démarche, une histoire de la chaussure » et nous venons d'entendre la description qu'Heidegger fait donc de ces chaussures de Van Gogh. Description qui est assez fascinante parce que tout le paysage apparaît dans l'idée de ces chaussures, quand bien même c'est un paysage fantasmatique, parce que Van Gogh était plus urbain à cette période-là qu'il n'était paysan d'une certaine façon. Je suis donc avec Denis Brunat et Éric Binquet, qui sont les deux personnes qui ont participé à l'invention de cette exposition, Denis en tant que commissaire et Éric en tant que scénographe. Et donc, il y a quelque chose qui me frappe quand j'écoute cette description d'Heidegger, des chaussures de Van Gogh, c'est à quel point il y a une identité qui se fabrique à partir de la chaussure. Et dans l'exposition, il y a une chose très bizarre, c'est qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il y a un usage fait par la police de l'identité de celui qui porte la chaussure. Vous pouvez nous raconter ?
En effet, il y a une paire de sandales à proprement parler qui est un prêt du musée de la préfecture de police de Paris. Ces sandales m'intéressaient parce qu'elles sont en feutre. Plutôt, ce sont des sandales en cuir, ce sont des surchaussures, mais toute la semelle est en feutre. Et ces sandales ont été prises sur un cambrioleur au début du XXe siècle. Et cet homme chaussait ses sandales avec la semelle de feutre lorsque, notamment, il visitait les appartements, les maisons, pour ne pas faire de bruit. Et à côté, nous avons une autre sandale qui est aussi en feutre, de taille, de pointure beaucoup plus petite. Et cette fois-ci, elle nous a été prêtée par le musée des métiers de la chaussure à Sèvres-Moine. Et cette sandale a appartenu à une religieuse qui mettait ses sandales à semelle de feutre pour ne pas faire de bruit lorsqu'elle se déplaçait dans le couvent. Voilà, à quel point le feutre a servi à la même chose, peut-être pas en tout cas pour les mêmes destinataires et dans des circonstances différentes.
Alors moi, ce à quoi je pensais, alors j'aime beaucoup cette histoire et ces deux personnages discrets, si j'ose dire, ouais. Mais je pensais plutôt au travail qu'a fait le frère de Bertillon sur l'identification de la personne qui porte telle ou telle chaussure, quasiment les empreintes digitales.
Oui, c'est-à-dire que en la fin du 19e siècle et encore au début du 20e siècle, la police scientifique est en route et on essaie de chercher les moyens, en tout cas, d'identifier les criminels, les suspects. Et on travaille sur les empreintes laissées sur le sol et la manière de se déplacer. Et il y a tout un discours à la fois scientifique, mais tout un discours social, je dirais, où, selon notamment Bertillon et tous les, en quelque sorte, ces pionniers de la police scientifique tentent de deviner les origines sociales de celles et ceux qui ont laissé les traces sur le sol.
Alors ça, c'est quelque chose de très impressionnant parce qu'ils disent que jusqu'à 7 mm près, ils arrivent à partir d'une trace très approximative, à savoir exactement la physionomie générale du personnage, etc. Donc c'est très étonnant. Alors, ce qui m'intéresse aussi dans l'identité et dans l'exposition, il y a c'est un chapitre qui n'y est pas et au fond, c'est une consolation presque, c'est la chaussure que l'on voit à Auschwitz, c'est-à-dire la trace de l'épouvante. C'est terrifiant quand on voit ces monceaux de chaussures, de sentir à quel point ça raconte le drame et l'être humain, c'est-à-dire qu'elle porte effectivement une mémoire extrêmement puissante. Comme si la chaussure était capable de dire tout de l'homme.
C'est une question difficile, dire tout, je ne sais pas, en tout cas elle dit beaucoup de choses, elle dit...
De l'humanité plutôt que de
l'humanité, oui, bien sûr, c'est-à-dire elle dit à la fois d'où l'on vient, on choisit aussi des chaussures en fonction de qui l'on est, de son milieu social, mais c'est le propre aussi du vêtement. Et l'idée justement dans l'exposition, ce n'était pas à la fois de montrer que des souliers aristocratiques ou des souliers de la grande bourgeoisie, c'est ce que nous avons, il faut bien le reconnaître, dans les musées de mode, donc on a fait beaucoup de demandes de prêts pour avoir des chaussures quotidiennes, on a des sabots, des galoches, parce qu'on a quand même porté en France des sabots jusqu'à 1950, et c'était quand même la chaussure, je dirais, des Français jusqu'à la bonne première moitié du XXe siècle. Mais l'idée était aussi, je dirais, de montrer les chaussures dans les cultures non européennes, notamment en Afrique, en Asie. Et ce qui m'a beaucoup fasciné au tout début, lorsque j'ai commencé à travailler sur le sujet, c'est que il y avait, par exemple, en Occident, ceux qui marchaient et ceux qui ne marchaient pas. Donc il y avait l'aristocratie qui ne marchait pas, et il y avait ceux qui étaient obligés de marcher, et qui avaient des chaussures qui étaient précisément faites pour la marche. Et très vite, en travaillant, je me suis aperçu qu'en Afrique, en Asie, il y avait aussi, je dirais, ceux qui marchaient et ceux qui ne marchaient pas.
Les rois, par exemple, au Cameroun, ne doivent pas mettre le pied par terre.
Voilà, les chefs, les sorciers. On présente un énorme chausson qui date de la fin du 19e siècle, qui vient d'un village... papou, il est fait d'un enchevêtrement de poils, de plumes, de crins. Et parce que le chef papou n'a pas le droit de poser notamment les pieds sur le sol, de peur par ses pouvoirs qui ne rendent la terre infertile. Donc on le porte. Il dure porté sur les épaules. Et quand on le met à terre, en quelque sorte, pour rentrer notamment dans son habitation, pour ne pas qu'il laisse l'empreinte sur le sol, donc on lui a fabriqué des chaussons. Et ces chaussons sont tellement épais, par conséquent, il ne laissera aucune trace. Donc, il y a quasiment dans toutes les civilisations ceux qui ne marchent et ceux qui ne marchent pas.
Alors,
et
Eric, pardon, je vous interromps parce que Eric a choisi un artifice pour présenter cet objet parce que c'est un objet très sacré. C'est quasiment la cape d'invisibilité de Harry Potter. Hein, c'est un objet pour devenir invisible.
Ben, en fait, c'est un objet qui nous a été prêté par le Quai Branly. Et quand on reçoit des objets comme ça, il y a toujours une notice. Et là, la notice, c'était « cet objet ne doit pas être montré ». Ce qui, pour une exposition, n'est pas vraiment...
Ça vous a compliqué la vie.
Ça devient un peu plus compliqué.
Et pour des raisons de sacrées, en fait,
c'est
simplement.
Ça. Voilà, c'est réservé. Alors, bon, moi, j'y connais pas grand-chose dans ces cultures, donc on respecte ça. Et comment expliquer la démarche qui va avec? Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on le met vraiment dans... On le laisse dans sa boîte et on montre la boîte. Et puis, bon. Et puis, quand même, ça n'allait pas non plus, parce que... Voilà. Et donc, en fait, le principe a été de montrer le reflet de cet objet. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais le voir... vraiment directement. Il est présenté dans une boîte, une sorte de construction, où on ne voit que son reflet par des miroirs. Donc il y a une très légère meurtrière dans laquelle on peut approcher son œil.
C'est un objet très impressionnant et on en sent la puissance sincèrement malgré tout.
Oui.
Hein, et c'est vraiment un des très beaux objets de l'exposition. Alors il y a un autre objet magique, si j'ose dire, qui peut changer notre destin. C'est la sandale de Cendrillon. Hein, vous l'évoquez dans le catalogue. Et donc j'aimerais bien, si vous voulez bien, Elsa Dupuis, que vous nous lisiez un petit passage sur cette question.
Après s'être laissé entraîner par le plaisir de la danse au milieu de ce monde brillant et dans ces salons magnifiques retentissant d'une musique enivrante, entendant tout à coup sonner minuit, elle se sauva avec la plus grande vitesse, sans être aperçue de personne. Mais dans sa hâte, elle perdit une de ses pantoufles. Le prince, ne la voyant plus, s'informa à toutes les sorties du château si personne ne l'avait vue passer. Personne ne l'avait vue sortir. Triste et mécontent, le prince remonta dans les salons. En les traversant lentement et le regard baissé, il aperçut tout à coup sur le parquet d'une des salles la pantoufle que Cendrillon avait perdue dans sa fuite. Il s'en empara, et jugeant par sa forme élégante et sa petitesse que cette pantoufle devait appartenir à celle qui était l'objet de toutes ses pensées, il fit publier à son de trompe qu'il épouserait celle qui pourrait chausser cette pantoufle. À cette annonce, grand fut l'émoi parmi les demoiselles nobles du pays. Les deux sœurs de Cendrillon surtout, orgueilleuses et ambitieuses comme leur mère, s'empressèrent de se présenter au château pour tenter l'épreuve de la pantoufle. Mais la malencontreuse pantoufle se trouvait trop mignonne en tous sens pour pouvoir être chaussée par l'une ou l'autre des deux sœurs. Enfin se présenta Cendrillon elle-même, tremblante de modestie. Elle s'assit dans le fauteuil que le prince lui indiqua. On lui présenta la pantoufle. Le prince mit genou à terre devant elle pour l'aider, mais un instant suffit à Cendrillon pour chausser la pantoufle qui allait parfaitement à son pied mignon et élégant.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez l'art et la matière et nous continuons dans notre aventure autour de l'exposition du Musée des Arts Décoratifs à évoquer l'histoire de la chaussure. Qu'est-ce que c'est que cette pantoufle de verre, dites-moi, Denis Brunat ? C'est VAIR, c'est pas VAIR VE2RE.
Non, c'est le VE2RE. Quand on regarde l'édition, notamment de Charles Perrault, la première édition en 1697, je suis allé reprendre le texte original à la Bibliothèque nationale parce que je ne savais plus vraiment si c'était le VAIR, le VE2RE ou le VAIR. Donc le texte original dit bien la pantoufle de VAIR VE2RE.
Donc la fragilité,
la fragilité, la petitesse aussi, parce que le verre, c'est-à-dire de la fourrure, aurait pu être une pantoufle un peu extensible. Par conséquent, je dirais même un pied un peu fort aurait pu un peu forcer sur les côtés. En revanche, sur le verre VE2RE, ce n'était pas possible.
Alors pantoufle pour danser probablement cette fois-ci, donc un chausson d'une certaine façon. Et il y a à un moment donné des allusions à la au chausson de la danseuse, qui là est un instrument de torture presque. Et cette torture, elle est constante dans toute l'exposition. On s'inflige constamment un mal incroyable pour séduire.
Pour séduire en grande partie et également pour montrer ses origines sociales. C'est-à-dire que l'aristocratie, à partir au moins du XVIe siècle, veut montrer sa différence. Donc elle va porter des chaussures, notamment où il n'y aura pas de différence entre le pied gauche et le pied droit. Les chaussures seront très serrées. Et au début du XVIIe siècle arrive le talon. Et le talon, seuls les aristocrates peuvent les porter parce que les talons sont très hauts, peu stable, et par conséquent la démarche va être très chancelante, boitillante, et par conséquent cette démarche-là va montrer aux yeux de tous qu'on est quelqu'un des hautes classes sociales, et donc la chaussure le permet. Et en plus le talon permet d'être haut, et par conséquent de confirmer, je dirais, sa supériorité. Donc le talon va en quelque sorte ralentir la marche, mais c'est quelque chose que l'on veut.
Alors le talon, il y a une histoire du talon dans l'exposition qui est très importante. Alors il y a trois ou quatre occurrences sur des sujets très divers du talon. Il y a le talon masculin avec le talon du roi peint en rouge, et pour des raisons d'ailleurs que vous pouvez expliquer.
Très difficile, d'abord parce que le talon rouge arrive au milieu du XVIIe siècle. C'est une légende qui raconte que c'est le frère de Louis XIV, Philippe d'Orléans, qui, après une sortie dans les rues de Paris, aurait malencontreusement taché ses chaussures en marchant notamment dans une flaque de sang. Et la légende raconte que le lendemain, toute l'aristocratie à Versailles avait peint notamment ses souliers en rouge pour suivre cette nouvelle mode. Alors c'est une légende parce que 15 ans auparavant, l'épisode de la flaque de sang, la mode des talons rouges, existait. Vraisemblablement, cette légende a été forgée pour tenter d'expliquer tant bien que mal une mode nouvelle, soudaine, que l'on ne comprenait mal. Et toujours est-il, la mode des talons rouges a été très importante jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution. Pas de textes ont été écrits, mais on sait que même sous le règne de Louis XVI, lorsqu'un homme était invité à monter dans le carrosse du roi, il devait avoir notamment des chaussures avec des talons rouges.
Alors le talon était d'abord une facilité pour monter à cheval, pour que le pied ne rentre pas, ne traverse pas de l'autre côté de l'étrier, donc exactement, ça permettait de sécuriser, si en cas de chute en tout cas, le cavalier. Et puis l'extravagance est venue, on a monté ces talons même pour les hommes.
C'est-à-dire qu'au tout début, le talon était masculin. Le talon est perse, vraisemblablement d'origine perse. Et ce sont, comme vous l'avez dit, les cavaliers perses qui portaient des chaussures avec des talons. Et c'est avec vraisemblablement les contacts entre l'Orient et l'Occident que le talon est arrivé en Europe. Il a d'abord été adopté par les hommes pour les mêmes raisons pratiques et progressivement par les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, le frère du roi, monsieur, a porté des talons particulièrement hauts, ce qui a valu d'ailleurs des critiques sévères de la part de Saint-Simon, disant des talons très hauts perchés comme sur des échasses. Et progressivement, le talon a quitté la garde robe masculine pour disparaître dans les premières décennies du XVIIIe siècle.
Alors, les hommes vont apprendre à marcher avec ses talons, vont apprendre à se déhancher, à réussir à faire des pas qui, visiblement, ne leur sont pas si faciles. Et il y a deux exemples masculins que j'aimerais bien, Elsa Dupuis, que vous nous les lisiez.
Pour les hommes, Louis-Antoine Caraccioli nous dit « Le pas du petit maître doit être tantôt balancé, toujours mignardé. Il semble qu'il ne peut marcher qu'en dansant, à la manière des sauterelles. » Le baron de Frénilly, quant à lui, précise « Les talons hauts et ce qu'on appelle le coup de pied abattu ont été dans tous les siècles les attributs des personnes du grand monde. Un homme ignoble a toujours été un pied plat. » Ainsi, le baron se rappelle ne pas avoir oublié les heures de fatigue que lui infligea son illustre maître de danse, qui trois fois la semaine lui faisait faire quatre ou cinq fois le tour du salon de sa mère sur la première phalange des doigts de pied retournés en dedans pour lui abattre parfaitement le coup de pied.
Ce texte qui se trouve dans le très bon livre que vous avez publié à l'occasion de l'exposition, je dois dire, est absolument merveilleux. Mais on s'attendait pas à ce que les hommes aussi soient. On leur inflige cette difficulté. Les femmes, on savait qu'on notre étrange domination masculine que Mona Chollet critique souvent nous a poussé à ces excès. Mais les hommes. Et en plus, j'ai découvert dans l'exposition que les pieds gauche et droit subissaient la même semelle. Qu'il n'y avait pas cette différence que nous avons tous dans nos chaussures, n'est-ce pas?
C'était une chose assez surprenante puisque cette non-différence entre le pied gauche et le pied droit semble apparaître au cours du XVIe siècle. C'est-à-dire qu'il y en avait durant l'Antiquité. Ah. Il y avait une différence également au Moyen-Âge. Et progressivement, et ça correspond vraisemblablement au moment où la chaussure aristocratique devient un objet de parade plus qu'un objet de marche. Et en quelque sorte, tout est fait pour que la chaussure ne permette pas ou du moins ralentisse la marche de manière très étroite, pas de différence entre le pied gauche et le pied droit. Fin 16e, début du 17e siècle, le talon va devenir de plus en plus haut. Bref, la chaussure permet de se montrer, permet de clamer son état, mais elle ne permet pas la marche. Il faudra vraiment attendre la seconde moitié du 19e siècle pour voir le retour de la différence entre le pied gauche et le pied droit, des semelles solides, le cambrion aussi, le cambrion métallique qui est la petite lame de métal qui se trouve dans nos semelles et c'est ce qui fait que nous sonnons quand on passe les portiques de sécurité et on peut dire que nos chaussures, celles que nous portons aujourd'hui, sont les héritières directes de tous ces progrès techniques qui sont apparus dans la seconde moitié du 19e siècle.
Alors, vous en êtes donné à cœur joie dans la scénographie, Éric Binquet, parce que vous allez avoir affaire dans l'exposition, vous avez eu affaire dans l'exposition à des extravagances de hauteur absolument stupéfiantes. Vous avez dû trouver comment loger des objets qui parfois font 60 cm de haut.
Oui. Alors c'est justement cette vitrine là où on évoquait tout à l'heure la question du talon et en fait là le parti a été pris de mélanger toutes les époques, toutes les provenances puisqu'on parlait du talon, de ne regarder que les talons. Et donc ce qui est étonnant, enfin j'étais vraiment effectivement le premier surpris de voir que en fait les sortes de platform shoes les plus extravagantes n'étaient pas à des drag queens de Pigalle mais en fait à des vénitiennes du XVIIe siècle
voilà. On en voit dans les tableaux de Carpaccio par exemple, c'est assez incroyable hein.
Voilà. Et c'est vrai que c'est très étonnant de voir que elles ont à nouveau inspiré les créateurs contemporains aujourd'hui, enfin et ce va-et-vient comme ça entre les époques montre bien que finalement il y a une question qui traverse le temps là sur la hauteur justement ce que dit.
Alors dans l'exposition il y a deux moments, on parlera du deuxième tout à l'heure. Il y a le moment plus fétichiste effectivement du XXe siècle avec des extravagances et aussi des créateurs absolument extravagants qui du point de vue de la création. Et puis il y a ce moment historique et j'aimerais bien que vous nous en disiez un petit mot, Denis Brunat, sur ces très hautes chaussures, mais que l'on voit aussi bien au Japon, me semble-t-il, qu'en Europe.
Oui, c'était l'idée de l'exposition, de montrer que les chaussures pouvaient avoir pratiquement les mêmes formes, en tout cas les mêmes hauteurs, mais avaient à la fois des fonctions différentes et pouvaient également engendrer des marches différentes.
C'est des fonctions au sens de la praticité, il y a de l'eau, de la boue, etc. Ou est-ce que c'est du fantasme, de l'imaginaire, parce que ça permet, comme vous le dites, des démarches, des déhanchements, des suggestions intéressantes?
C'était plutôt pour provoquer, en tout cas, comme vous le dites, donc des démarches particulières. Par exemple, les plus hautes chaussures occidentales, celles dont Eric venait de parler, donc les chopines que l'on portait à Venise au XVIe ou XVIIe siècle.
Comme une chopine de bière.
Comme une chopine de bière. En italien, on appelle ça les pianella, les pianelles au pluriel. Elles, en tout cas, on a rassemblé à l'exposition les deux plus hautes qui font autour de 56 centimètres de haut.
C'est particulièrement dangereux. Moi, je me souviens d'un petit texte de Madame de Launoy je lisais sur son voyage au Portugal où elle risque à chaque instant de se briser la jambe.
Elle risque de se briser la jambe, mais c'était la même chose à Venise, mais c'était surtout un signe extraordinaire extérieur de richesse, parce que ces chaussures très hautes, qui pouvaient faire jusqu'à 56 cm de haut, étaient cachées par l'ourlet des robes. Par conséquent, il fallait beaucoup plus de tissus pour faire les robes. Et à Venise, notamment dans l'aristocratie, les tissus, c'est quand même des soieries ou des velours de soie, donc ça coûtait très cher. Donc par conséquent, on pouvait montrer qu'on avait les moyens d'avoir des robes très longues avec beaucoup de tissus, et les dames ne pouvaient pas sortir seules. Par conséquent, elles étaient toujours accompagnées de servantes, d'esclaves et
de chaperons,
et donc elles montraient aux yeux de tous leur train de vie.
Étonnant. Alors, il y a cela, puis alors il y a cet autre moment incroyable. Donc, je me souviens que dans le livre, à un moment donné, vous évoquez une scène, ça m'a un cordonnier appelé par une dame, et cette dame se plaint de ce que la chaussure a cédé, et le cordonnier lui dit « Mais je parie 10 louis que vous avez marché avec », comme si c'était un scandale de marcher avec ces chaussures.
Mais c'est-à-dire que cette phrase pourrait résumer un peu tout le propos de l'exposition, parce qu'on croit précisément que les chaussures sont faites pour marcher. Or, le fait d'associer la chaussure à la marche est quelque chose de très récent. Parce que d'ailleurs, même la notion de chaussure de marche est apparue très tard. Elle est apparue dans les années 1860, 1870. Et jusqu'à cette époque, pour une grande partie de la société, la chaussure était faite pour couvrir le pied, était faite pour montrer son état, mais n'était pas faite précisément pour la marche.
Alors au 19e chez Balzac, mais bien avant chez d'autres, au 18e déjà, il y a des leçons pour savoir marcher. Quelle est la meilleure façon de marcher? Il y a des chansons de Boy Scout là-dessus, mais il y a aussi des chansons, pas des chansons, mais des leçons du 18e siècle sur la question.
C'est-à-dire qu'il fallait surtout dans l'aristocratie, parce que c'est notamment dans cette classe sociale que nous avons les textes, il fallait savoir marcher selon son rang. Donc tous les enfants, je dirais, qu'ils soient des enfants de marchands, de boutiquiers, d'aristocrates, marchaient entre 12 et 14 mois. Mais vers l'âge de 5 ans, 6 ans, les enfants de l'aristocratie voyaient arriver dans leur hôtel particulier un maître de danse qui allait notamment leur apprendre le maintien, savoir se tenir droit et savoir marcher droit et marcher selon son rang. C'est ce que précisément on a entendu tout à l'heure dans le texte, où il fallait notamment avoir le coup de pied particulièrement rond. Et pour
ça,
cela,
c'est pour les hommes, en effet.
Ça, c'est pour les hommes. Il fallait donc apprendre à marcher avec les orteils recourbés, les pieds nus sur la pointe, faire plusieurs fois le tour du salon pour précisément avoir le coup de pied particulièrement rond. Et on avait ainsi la forme du pied, le petit pied, plus la démarche d'un aristocrate. Et on savait se distinguer comme ça.
Je ferai attention en sortant. Et écoutons, si vous voulez bien, Elsa Dupuis, comment marche une femme ?
Selon François Nivelon, au milieu du XVIIIe siècle, la bonne méthode pour atteindre une attitude gracieuse, un mouvement agréable, un air facile et un comportement distingué doit respecter les préceptes suivants. La tête doit être droite et libre de mouvement. Le corps également droit, dégagé et relaxé. Les bras jusqu'à la pointe du coude tombant également avec grâce et les mains croisées. Le pas doit être proportionnel à la hauteur. La jambe qui bouge doit venir au sol avec un genou droit et le corps bougera insensiblement
et laissera l'autre jambe légère et libre de passer de l'avant de la même manière. À ce moment-là, regardant avec une humilité décente et un air soumis, la dame peut être correctement préparée en joignant le pied arrière à celui qui est au premier plan, puis en s'abaissant et en s'élevant progressivement, pour ensuite marcher comme avant. En 1862, dans le manuel « L'art de relever sa robe », l'auteur écrit « Oh, le pied ! Qui ne donnerait son âme pour un petit pied étroit, cambré, orgueilleusement retroussé à son coude, et dont la plante est si bien arquée que l'eau pourrait passer dessous sans le mouiller ?»
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez l'art et la matière et nous étudions la meilleure façon de marcher grâce à l'exposition sur l'histoire de la chaussure qui a lieu en ce moment au Musée des Arts Décoratifs. Et qu'est-ce que c'est le coude du pied? Est-ce que c'est une erreur, une allitération de coup de pied ou c'est...
On a les deux orthographes dans les textes. On a coup de pied ou coude de pied.
Coude de pied.
Voilà, en quelque sorte. En tout cas, c'est la partie frontale. Et dans les classes comme l'aristocratie, comme la grande bourgeoisie, il faut avoir précisément le coup de pied rond. C'est ce qui était un signe de distinction.
Alors, dans l'exposition, il y a évidemment ce passage qui est un passage obligé sur le pied japonais. Et qui est très impressionnant, je dois dire, et le public le regarde avec beaucoup d'attention. Vous avez consacré une salle exprès à cette question.
Alors oui, en fait, c'est une salle qu'on a choisi d'isoler un peu du reste, parce que, enfin, donc c'est le culte du petit pied. Donc il y a effectivement les pieds asiatiques, alors qui sont plus chinois que japonais, mais qui sont donc c'est tout ce qu'on connaît très bien, enfin ce qu'on connaît très bien, ce dont on parle beaucoup, des pieds bandés, des pieds brisés, recourbés.
C'est l'explosion des tarses et beaucoup des carpes, je ne sais pas lequel est en bas. Je confonds toujours les tarses et les.
Je ne sais plus.
les orteils. Vous imaginez qu'on
mais enfin, on imagine
les et qu'on en les. Tout cas, on imagine que ça fait très très mal.
Ouais, on les plie en dessous.
On commence très tôt, j'ai l'impression en plus. Hein,
c'est 5 ans.
Cinq ans. Et ce qui est particulièrement affreux, c'est que ce sont les mamans qui emmènent leurs petites filles faire ça. C'est-à-dire que c'est une torture qui se transmet de mère en fille. Enfin bon, bref. Et cette image que moi je trouve extrêmement violente, en fait, on a choisi de les isoler en prévenant le public que effectivement on n'est pas juste dans une question de mode ou d'apparence. C'est quelque chose qui une profonde intrusion dans le corps et quelque chose de très violent. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est de voir que on regarde et c'est pour ça qu'on les a associés. On regarde ça, on a effectivement les chaussures françaises du 19e siècle, où on voit que finalement, nos aristocrates à nous avaient aussi les pieds bandés. Alors on peut taper sur les ailleurs en disant les sauvages, asiatiques et tout. On faisait la même chose chez nous.
Enfin, oui, et quand on écoutait la façon dont il faut marcher en repliant les...
Absolument, c'est pas... la torture
et universelle. Et au fond, la danse sur les pointes des balais, ça reste une torture, non?
Ça reste une torture qui est arrivée relativement tard, vers 1830, au moment où on associe les danseuses à des oiseaux, des libellules, des papillons qui vont se poser légèrement sur le pistil des fleurs. Et par conséquent, pour en quelque sorte matérialiser cette légèreté, progressivement, les danseuses dansent sur les pointes. Or, il se trouve que les chaussures de danse ne sont pas faites pour. Et c'est l'une des premières grandes danseuses étoiles, Marie Taglioni, vers 1830, qui précisément pour faire quelques secondes de pointe, va elle-même broder des simples escarpins de satin noir pour renforcer le bout, pour être un petit peu sur la pointe. Et on montre dans l'exposition ces premiers chaussons et on montre toute leur révolution jusqu'à véritables chaussons qui forment de véritables coques pour précisément bien tenir les pieds. Et nous montrons également un documentaire de l'Opéra de Paris où l'on peut voir toute la préparation des chaussons, le fait de les humecter, de les coudre, de les renforcer, de les casser, pour tenter, tant bien que possible, de pouvoir faire les mouvements sur ces pointes.
Je me tais parce que, au fond, je trouve ça merveilleux quand je le vois, et je ne pensais pas et maintenant je le sais, à la souffrance que ça infligeait.
Oui, à tout ce que ça infligeait. Oui.
Voilà. Mais bravo à ces danseuses qui surmontent tout cela pour la beauté. Hein, la danse en vol tacite d'abstraction, c'est absolument merveilleux, évidemment. Vous êtes, je lisais un texte assez amusant de Champfleury sur l'hôtel du collectionneur, sur la collection, sur la vente du collectionneur. Il y a une série de textes comme ça où Champfleury décrit ce qui se passe dans une salle des ventes à Drouot, tout ce qui passe. Et à un moment donné, il raconte ce qui se passe dans un collectionneur, chez un collectionneur de chaussures. Et j'ai pensé à vous, évidemment, Éric Binquet, parce que je me suis dit que vous étiez un petit peu dans cette situation d'être un collectionneur de chaussures installant sa collection. Écoutons Champfleury.
Chaque jour révèle un nouveau type d'amateur, et je tracerai en très rapide le profil du singulier personnage qui a réuni un assemblage de souliers, à commencer par les mocassins de la pluie qui marche, pour s'arrêter aux pantoufles de l'infortunée danseuse Livry. Dans de grandes vitrines sont entassés des souliers à la poulaine, des philosophes de voleurs, et les fameuses bottes à entonnoir que Bassompierre vidait d'un trait. L'usure des talons ou de la semelle, la fatigue particulière à certaines parties de la chaussure, suivant que l'homme marche en dedans ou en dehors, ont inspiré à ce collectionneur des mondes de pensée. Il a bâti une théorie à ce sujet. « Dis-moi comment tu marches, je te dirai qui tu es. » En montrant telle chaussure, il affirme qu'elle n'a pu appartenir qu'à un cagneux. L'état d'un homme qui pense habituellement lui est révélé par des trous bien conformés sous la plante des pieds. À l'entendre, de saines réflexions conduisent à une chaussure sainement usée. Notre homme en arrive à faire mouler des pieds antiques et des pieds modernes. Il démontre combien le rude Michel-Ange introduisait de muscles dans les pieds de ses héros et combien le doux Raphaël en supprimait. Jusque-là, un troisième étage suffisait au collectionneur. Peintures, sculptures et moulages lui font louer trois pièces nouvelles.
Éric Binquet, je disais que vous étiez un petit peu dans la situation de ce collectionneur, et vous aussi, vous avez utilisé beaucoup de pièces pour développer cette collection. Tout à l'heure, nous parlions de cette partie très singulière de la collection où les objets étaient magiques, la pantoufle de feutre du voleur et la pantoufle magique du chaman, en quelque sorte. Et juste après, vous avez installé les films où on voit, ou juste avant, je ne sais plus, juste après, je crois, les films où l'on voit la danseuse dont vous parliez tout à l'heure. Et juste après, on arrive cette fois-ci sur une autre salle assez curieuse parce que il me semble qu'elle est couverte de rideaux. Que se passe-t-il dans cette salle?
Alors oui, parce que effectivement, le pied est prêt à beaucoup de fantasmes et de projections, et notamment c'est tout ce qu'on a regroupé sous les chaussures fétichistes, on va dire, qui à nouveau, alors c'est, on les a, alors là j'ai choisi de les présenter sous des petits rideaux comme un peu des cabines de voyeurs en fait, où il y a un geste qui est fait comme ça pour dévoiler la chaussure.
Ça plaît beaucoup, hein. Les gens s'amusent beaucoup à les regarder, les photographier. L'interdit enchante, en fait.
C'est vrai,
comme toujours.
Voilà, c'est ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de la découvrir. C'est le moment de la découvrir. Donc, on ne voit rien jusqu'au moment où on écarte le rideau. Et on découvre effectivement des choses assez inattendues. Enfin, en tout cas, que moi, je ne connaissais pas et qui m'ont intéressé.
Ça nous a tous intéressés parce qu'il y a des chaussures, d'abord c'est des sculptures au fond extraordinaires, la sculpture de certains fétichistes où le talon est d'une verticalité absolue, la cambrure devient un spasme, c'est des choses absolument merveilleuses et tout d'un coup je me suis demandé s'il fallait pas élargir un petit peu notre spectre habituel.
Ben oui, c'est à ça que ça sert, c'est à ouvrir comme ça des... On se dit, ah mais oui, ça, c'est aussi ça une chaussure, ça peut... on pourrait aussi marcher comme ça. Donc c'est tout, c'est possible que ça ouvre ces nouvelles voies en quelque sorte.
C'est une partie qui était dans la collection déjà du musée des arts décoratifs ou c'était une section que vous avez rapportée pour l'occasion, Denis ?
Malheureusement, nous n'avons pas de chaussures fétichistes dans les collections du musée, en tout cas pas d'aussi belles. Et donc la quasi-totalité des pièces présentées, je dirais, dans cette vitrine avec les petits rideaux noirs qu'il faut soulever, ce sont des prêts.
Vous voulez dire que les acquisitions sont prudes au musée d'art décoratif?
J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, je dirais, il a fallu aller chercher, je dirais, auprès de collectionneurs particuliers, de quelques musées, ces chaussures, comme vous disiez, avec des talons très hauts, avec des cambrures ronde. Nous n'avions malheureusement pas ça dans les collections.
Moi, je trouve que c'est un espace, et d'ailleurs vous avez très justement associé dans cette partie-là des chaussures de créateurs délirants, enfin des sculpteurs de chaussures, on peut dire, qui n'ont pas forcément de fonction érotique, et des chaussures érotiques qui sont aussi d'une liberté d'imaginaire extraordinaire. Et donc, j'aimais bien cette association entre les deux mondes.
L'idée était en effet de partir du fétichisme, notamment des chaussures que l'on apportait vraisemblablement dans les maisons closes à la fin du 19e et au début du 20e siècle, aller vers les chaussures avec lesquelles on ne marche que très peu, voire pas du tout, qui peuvent être aussi des chaussures fétichistes, et engager toute une réflexion sur les chaussures portables, dont les plus anciennes datent des années 1985, mais la très large majorité d'entre elles datent entre 2005 et 2019.
Vous pourriez décrire par exemple celle de Elko Moorer, la paire de chaussures pour femmes modèle Stitz.
Alors le modèle Stitz de Moorer, ce sont des chaussures qui se limitent au talon. Et donc nous avons un simple talon de bois que l'on va donc nouer avec une bandelette tout au long du mollet, à savoir que le pied est totalement nu, sauf le talon. Et il y a eu plusieurs créateurs qui ont travaillé. C'est très intéressant parce que c'est à partir des années 1980 lorsque le talon redevient à la mode dans la garde-robe féminine. Au début également, dans ces années-là, c'est la mode des baskets que l'on commence à voir un peu de partout. Et il y a beaucoup de créateurs qui vont réfléchir sur la chaussure, sur la marche, sur la démarche, sur la féminité, sur la souffrance, et qui vont laisser libre cours à leur imagination pour faire des chaussures très souvent, mais lesquelles on ne marche pas.
Alors on peut aussi marcher dans une chaussure squelette, une sorte d'exosquelette. Est-ce que c'est Benoît Méléard ou un autre? Je ne me souviens
plus.
Non,
c'est pas Benoît Méléard, c'est Corinne Bornier, qui est une artiste française qui nous a prêté deux remarquables chaussures qui sont faites avec des os de poulet, délicates, très belles, très fines, dans lesquelles bien sûr on ne peut pas glisser un pied, trop étroit, trop fragile aussi, mais qui montre aussi que la chaussure peut être un peu l'extension du corps, aussi l'extension notamment des os, avec lesquels parfois on ne peut pas véritablement faire un pas.
Alors il y a cela qui est en face des cuissardes par exemple, alors qu'ils sont formidables parce que on a l'impression qu'il faut un temps pour les dénouer, qui doit être absolument merveilleux, et une fois de plus l'attente joue son rôle. Et donc on pense évidemment à Sacheur Masoch avec la Vénus à la fourrure, où il y a énormément de passages que Deleuze a souvent relevés, mais plus anciennement il y avait Rétif de la Bretonne. On pourrait écouter un texte de lui, Elsa Dupuis.
On ne pouvait rien imaginer de plus distingué et de plus précieux que les chaussures de sa jeune épouse. Elles étaient recouvertes jusqu'aux talons de nacre et de diamants éclatants. Elles avaient coûté plus de 10 000 couronnes et lui avaient été offertes par Sainte Palaire. Le soir, quand ils étaient seuls dans la chambre nuptiale, le jeune époux s'agenouillait et d'une main tremblante retirait les belles chaussures de ses jolis pieds. Puis il les chaussait de pantoufles, non moins belles, quoique moins luxueuses. Les chaussures étaient placées dans un petit temple de verre, comprenant un support rond posé sur des colonnes ioniques de cristal surmontées de chapiteaux dorés. On conservait dans ce coffret les chaussures, preuve et gage d'un immortel amour. Depuis lors, 10 ans ont passé sans jamais que la jeune femme manquât à chaque anniversaire du mariage de porter les chaussures. La passion érotique du mari n'a pas diminué. Peut-être parce que son amour trouve toujours une force nouvelle dans ce culte, ou peut-être parce que son épouse, conseillée par son admirable belle-mère, emploie les méthodes inconnues des autres femmes, ou peut-être encore parce que des hommes comme Sainte Palaire sont plus tendres et plus sensibles aux stimuli maintes et maintes fois répétés.
Vous êtes sur France Culture, nous terminons cette émission sur l'histoire de la chaussure, marche et démarche au musée des arts décoratifs, mais on se rend compte à quel point la chaussure est liée au désir, c'est quasiment ce qui semble être dominant dans l'exposition. Mais il y a quand même des chapitres sur d'autres types de chaussures, je pense à la chaussure militaire, bien ferrée. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est stratégique la chaussure aussi peut-être.
La chaussure est stratégique et d'ailleurs à la fois comme à travers la chaussure de danse, la chaussure de sport, la chaussure militaire, ce sont vraiment des souliers qui sont d'abord nés de la rue, pourrait-on dire de la mode, puisqu'il y avait au XVIIIe siècle et encore au début du XIXe siècle aucune différence entre la chaussure de ville et la chaussure militaire. Et c'est vraiment dans les années 1870 que le célèbre Alexis Godillot a mis au point un modèle qui a été largement décliné quasiment dans toutes les armées du monde.
Vous voulez dire que le mot Godillot,
c'est celui de cet homme, voilà, de quelqu'un. Voilà, même si on dit qu'on en a plein le dos, plein le, etc., de porter des Godillots. Mais toujours est-il, on lui doit faire une chaussure particulièrement confortable. D'ailleurs, il va différencier le pied gauche et le pied droit, notamment dans les semelles. Il va faire des semelles très épaisses, cloutées, des chaussures hautes pour bien maintenir la cheville. Et les chaussures, je dirais, sont si précieuse, si, j'allais dire, confortable, plutôt si adaptée à la fonction de la marche militaire, qu'elles ont été largement copiées jusqu'à nous. Et d'ailleurs, on a toute une vitrine où l'on voit l'évolution de la chaussure militaire en Europe de la seconde moitié du XVIIIe siècle jusqu'à nous.
Est-ce qu'on a perdu des guerres à cause de mauvaises chaussures ?
Oui, on a perdu des guerres, du moins on était mal chaussés en tout cas pour partir à la guerre, notamment au XIXe siècle. Je crois qu'il y a une l'armée de Napoléon qui a précisément traversé la Russie avec des sandales ou du moins des petites chaussures très fines et qui n'étaient pas du tout adaptées ni au terrain et encore moins au climat.
Alors cette histoire de la chaussure, c'est une histoire du corps. Vous êtes l'un et l'autre fascinés évidemment par cet aspect. Pourquoi avez-vous choisi cette histoire des marges ? Vous n'êtes pas dans l'histoire principale de l'objet, de l'art, etc. En tout cas, celle qui ne nous semblait pas principale.
Parce que ça n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'on a souvent fait des expositions de chaussures dans les musées. On évoquait l'histoire de la chaussure de l'Antiquité à nos jours, l'histoire de la chaussure à travers les grands noms, les grands bottiers du 19e, les grands chaussures du 20e siècle. Ça avait déjà été fait et bien fait. Et puis, on a souvent oublié dans l'histoire du vêtement et des modes que le vêtement, sa fonction première était de couvrir un corps, mais on a rarement parlé du corps. Et l'idée était précisément de montrer que la chaussure est pour nous un objet courant, banal, et que ça n'a pas toujours été le cas.
Alors il y a un dernier mot pour vous signaler, vous le savez peut-être, qu'il y a une relique très importante, la Sainte Savate, dans le Midi, dans les Bouches-du-Rhône, une chaussure de la Vierge.
Oui, à Saint-Zacharie.
L'église Saint-Zacharie,
oui,
exactement.
C'est le village de mes grands-parents.
Oui, ben, bravo,
voilà,
bravo.
Super, merci.
Merci infiniment, Denis Brunat, merci, Éric Vinquet.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était l'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Denis Brunat, le commissaire de l'exposition, et Éric Baquet, son complice de la mise en scène de celle-ci pour l'exposition Marche et démarche, une histoire de la chaussure au Musée des Arts Décoratifs à Paris jusqu'au 22 mars. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site France Culture. Une émission conçue en collaboration avec Seam Boutata, lecture des textes Elsa Dupuis, réalisation Anna Holweck. La semaine prochaine, nous écouterons une émission sur Médard de Rousseau. À 15h30, vous retrouverez Victor Massé de l'Épinay et son rayon BD, et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.